Chapitre 3. Les Cassagnols étaient installés à Paris depuis plus de 3 mois. Personne à Marraine ne savait leur adresse, sinon Papette Rességuier, à qui Rose avait instamment demandé de la garder pour lui. La raison d'un pareil mystère, Papette la devinait bien, c'était d'empêcher les Mourez de correspondre avec Amélie. Par indulgence et par loyauté, et aussi parce qu'il craignait d'être privé des nouvelles de ses enfants, il obtempéra aux ordres de Rose. Ce fut en vain que Gustave le supplia de lui confier cette adresse. Papette, d'ailleurs, l'accueillait dans son jardin avec une tendresse heureuse. Bientôt, Gustave conçut le projet d'aller lui-même à la découverte des Cassagnols dans Paris. C'était le seul moyen de connaître leurs véritables sentiments à son égard. Le jour où, dans le petit magasin de la rue Saint-Jean, il annonça son intention d'aller à Paris, tous les Mourez s'indignèrent à la fois, surtout le père. Pourquoi aller à Paris? Est-ce que c'est un métier, la littérature? Honnête et fier, ne souffrirait-il pas de sa pauvreté, d'autant plus qu'il voudrait, une fois engagé dans la bataille, lutter jusqu'à la mort? Et s'il tombait malade, est-ce qu'il irait, ô déshonneur, échouer à l'hôpital? Le père Mourez, de qui les rhumatismes et grissaient le caractère, menaça Gustave de sa canne en hurlant tel un damné. « Triple sot, tu as toujours vécu dans les nuages, loin de tes camarades que tu méprises. »« Écoute-moi tranquillement, mon père, » supplia Gustave. « Tu reconnais que je suis prudent, sage ?»« Ah, j'aurais dû te contraindre dans ce magasin à vendre des souliers. C'est moi qui ai le plus de tort. » Il frappait furieusement de sa canne les carreaux sonores et, à petits pas saccadés, il marchait de long en large, geignant parfois d'une douleur plus lancinante aux reins, menaçant aussi sa femme, qui essayait par des plaintes de détourner sa colère sur elle. La vieille Mamette, si vaillante à l'ordinaire, pleurait en silence. Gustave ne bougeait pas, debout, très calme. « Il me faut peu pour vivre, dit-il. Ce n'est qu'à Paris que j'ai la chance de conduire ma destinée à mon gré. »« Tu es fou! Il te sera aussi impossible de gagner ta vie en fabriquant des livres que de retrouver dans une foule immense la petite fille de Rességuier. J'ai 24 ans, je suis un homme. Permettez-moi donc d'éprouver mes forces dans la bataille. Si je suis vaincu, ce sera un petit malheur pour le monde. Si, au contraire, je puis créer une œuvre qui soit bien vivante, vivante du sang de mon cœur et du soleil de mon pays, ne conviendrez-vous pas que j'aurais eu raison de persévérer dans ma volonté ?
À la rigueur, soupira Mamette, on peut tolérer la tentative.
Et quand je tiendrai le succès, ces provinciaux auxquels vous faites allusion et qui ont renié leur province rechercheront en votre fils l'homme loyal qui pourra leur donner, avec un peu de gloriole, la fortune peut-être.
Tu es malade, mon garçon, s'écria le père.
Allons, il n'y a qu'une belle déception qui puisse te guérir de tes fantaisies. Quand veux-tu partir?
Le plus tôt possible.
En tout cas, ne compte pas beaucoup sur notre argent. Depuis la crise viticole, les ventes ne marchent plus aussi bien qu'autrefois. Ce qui m'ennuie pourtant, c'est qu'on va nous tourner en ridicule.
Ah, voilà, l'opinion publique. N'en ayez donc nul souci. Les illettrés sont incapables de juger les choses qu'ils sont incapables de comprendre.
Bien, bien, nous verrons. Monsieur Mourez, en titubant sur sa canne, avait repris sa place au bureau. Mamette s'épongeait le visage à grands coups de mouchoir. Madame Mourez regardait avidement son Gustave bien-aimé lorsqu'une paysanne entra pour chausser sa fillette. Tout de suite, comme par enchantement, l'humeur des boutiquiers se fit souriante. Ah, le lendemain, ce ne fut pas une petite affaire que de ranger le linge et les costumes de Gustave dans une chapelière. Au bout d'une semaine, le bagage fut prêt. Quelle mélancolie eut Gustave le dernier soir de quitter cette chambre paisible où, depuis des années, étant encore rhétoricien au collège, il avait étudié de toutes ses forces et joui de son noble désir d'atteindre la beauté de la pensée et du langage. Entre ces murs blanchis à la chaux, où n'avaient vécu avant lui que des simples, il revit un moment, par l'hallucination du souvenir, son Amélie autrefois si bonne, si amoureuse parmi la lumière de ses rêves. Néanmoins, il dut bouleverser en sa bibliothèque ses livres familiers, choisir ceux qui le suivraient à Paris,
ordonnait ceux que personne ne toucherait plus et qui allaient dormir sous la poussière. Lorsque, ayant refermé les tiroirs de sa table de travail, il se leva de son vieux fauteuil, ce fut avec une peine dont tout son corps trembla. Et comme entravé par des mains jalouses qui le retenaient dans cette chambre si heureuse de sa présence, il se dirigea pesamment vers l'escalier. À table, il ne parla guère. Son esprit, ainsi que son cœur, avait épuisé dans le supplice d'une longue journée de visites et d'adieux à ses amis leur vertu de résistance. Il se coucha tôt, selon son habitude, et dormit d'un profond sommeil. Dès l'aurore, il s'habilla, puis, non sans impatience, pressa la besogne pénible des derniers préparatifs. Enfin, avec quelle effusion il embrassa son père, qui, les joues baignées de larmes, haletait de l'angoisse que son fils, le meilleur de sa fortune, lui fût si brusquement arraché. Gustave lui promit de rester sage, digne, au milieu des épreuves qu'il attendait sans doute. « Je compte sur toi, » balbutia M. Mourez. « Je t'aime, sois heureux. » Sa mère et sa mamette l'accompagnèrent à la gare sans lui laisser porter le moindre paquet. À cause du monde, qui médit si vite, elles affectèrent une douceur fière. Sur le quai de la gare, elles ne cessèrent de recommander à leur petit les soins les plus attentifs de sa personne, le souci d'éviter les mauvaises fréquentations. Soudain, Papette Rességuier arriva, non plus avec ses sabots et son pardessus à ficelle, mais propre, rasé, vêtu de son costume de velours qu'il mettait parfois pour aller en ville faire ses emplettes. Les deux femmes aussitôt le félicitèrent. « Il est toujours brave, Papette. Il ne nous a pas oubliés. »« Le devoir avant tout, » répondit Papette. « Croyez-vous que ce n'est pas malheureux aussi de voir partir cet enfant? Je vais être horriblement seule. » Et nous ? Vous aurez le magasin pour vous distraire. Mais moi, qui viendra jusqu'à mon jardin ? Bah, plaisanta Gustave, vous viendrez à Paris. Je ne dis pas non. Ces mots jetèrent une surprise radieuse, un élément de courage. À présent, insinua Mamette, vous devriez confier à Gustave l'adresse de votre fille. J'ai juré de la garder pour moi. D'ailleurs, Gustave saura bien la découvrir. Le train apparut à l'improviste. Effarées, comme si le temps leur eût manqué de chercher une bonne place, les femmes coururent le long des wagons. Gustave avait ouvert sans hâte un compartiment. Il y installa ses colis qui contenaient des vivres, une couverture et des pantoufles. Puis, ne réprimant plus son émotion très vive, il étreignit contre son cœur sa mère et sa mamette, il les couvrit de baisers. Quand il eut embrassé le vieux Rességuier, qui pleurait d'autant plus que sa douleur lui rappelait le départ de ses propres enfants, il monta tranquillement à sa place. Comme il s'accoudait à la portière, un peu par forfanterie, pour communiquer aux autres une assurance qu'il n'avait pas lui-même, le sifflet de la locomotive retentit. Au risque d'être renversé, les deux femmes se soulevèrent ensemble vers le marchepied, en agitant leurs mains suppliantes. Papette dut les repousser, non sans rudesse. Jusqu'à ce que le train eût disparu, elles échangèrent avec le voyageur, qui brandissait son chapeau de feutre, des saluts à coups de mouchoir. Long, interminable voyage. Gustave n'arriva que dans la matinée du lendemain à Paris, sous un ciel bas, tout gonflé de nuages. Il se logea près du Luxembourg, dans un hôtel de la rue Gay-Lussac. Dès qu'il s'aventura dans la rue, il eut la sensation bizarre, parmi les passants habiles à se frayer un passage dans la foule des trottoirs encombrés, qu'il ne savait plus marcher aussi bien qu'à Marennes. La rumeur continue de la ville lui causa de la stupeur comme à un enfant et une sorte d'effroi. Il avait pourtant le sens des choses pratiques, le souci prudent de son avenir. Et il connaissait d'une foi profonde que, même seul, sans recommandation, il trouverait, puisqu'il était courageux, du travail dans ce grand Paris.